Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire. J'avais juste une petite annonce à vous faire, c'est que donc la cellule va prendre des vacances en février. On va donc se retrouver maintenant le jeudi 7 mars. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais jeudi 28, c'était possible là qu'il y ait un podcast. C'est pourquoi je vais en fait vous diffuser deux podcasts ce jeudi, parce que c'est un podcast en deux parties et que ça m'ennuyait de vous mettre en tout cas la première partie en début du mois et la deuxième partie à la fin du mois. Je trouvais ça un peu ridicule. En plus, vous seriez un petit peu resté sur votre faim, je pense. Donc, je préfère rassembler les deux podcasts et du coup compter que ces deux podcasts valent pour le jeudi 7 et le jeudi 28 février. Le reste du temps, bah, c'est des vacances pour moi. Voilà, allez, à très vite. On se retrouve le jeudi 7 mars pour la suite de nos aventures. Où est-ce qu'ils sont décrits? Ils sont décrits dans Sens Cosmo, les Quadriades
Oui.
Cosmo? À l'article Quadriades Cosmo ou...
Oui.
C'est bien... Il est bien fait le livre ou pas?
Oui. Ça dépend.
Alors, les Quadriades. Créature humanoïde faite du nombre.
Tu vas me Cyril Copra de Bonville.
Cyril Copra de Bonville.
Je crois que je les ai quasiment tous.
D'accord.
Il y a de quoi faire quand même avec les. Avec les il y en a quand même 6 des quadrillades cosmiques.
Mais il y en a forcément 6. On te pose une question de combien il y en a, tu réponds 6.
Ou tu dis, ils sont innombrables.
Non, mais non, parce que c'est 100, tu réponds 6. Comme dans Harry Potter, ça te demande un chiffre. Dans Harry Potter, tu réponds 7 et c'est bon, ça a raison.
Ah ouais, ok. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un petit podcast sur Sens, comme ça, tranquillement, avec Maxime. Maxime, ça va la pêche?
Ouais.
Vous savez qu'Antoine, ça va? Antoine?
Oui.
Alors avec ça,
je contraste avec Maxime.
Et nous sommes avec Natacha. Natacha, ça va?
Oui, ça va.
Et aujourd'hui, un podcast cher à Maxime qu'il avait envie de faire depuis ultra longtemps. Puis à chaque fois, on le remet à plus tard. Puis là, vraiment, on s'est dit non, là, vraiment, on ne peut plus le remettre à plus tard.
Parce qu'il a les poches pleines.
Sur les quadrillades de Cosmo.
Et si on le remet à plus tôt, ce sera le podcast de Tantal.
Merci, c'est ça, exactement. Alors, on y va.
Je ne savais pas comment la formuler, merci.
C'est parti, vous voulez commencer par lequel?
Moi, je propose de les faire dans l'ordre de rencontre, en fait. Je veux vraiment garder hélium et hydrogène pour la fin.
D'accord, ok,
en fait,
très bien.
Parce que...
Bah, pourtant, c'est les premiers qu'on rencontre dans Mort, hélium et hydrogène.
Ouais, mais je parlais dans la rencontre dans Cosmo.
Ok.
Moi, je veux les garder... Enfin, je sais pas
donc, dans l'ordre, on les fait dans l'ordre de rencontre dans Cosmo.
Ouais,
okay.
Genre on commence par béryllium, voilà.
Voilà, béryllium. Alors, qui veut se lancer sur béryllium? Alors, Maxime, une petite.
Bah, je crois que.
Ne regardez pas moi, je vous ai dit que je voulais vous poser des questions.
Non, pas, chaque fois, je pense.
Pourquoi ce podcast aussi? Ouais, pourquoi ce podcast? Pourquoi est-ce que je veux le faire? Parce que, en fait, pour leur rendre honneur, tout simplement. Parce que je sais pas, il y a eu un podcast sur les Quadriades Rebirth. C'est des antagonistes forts. Ça va être les antagonistes principaux de Sens Cosmo. C'est ceux sur qui il y a du build-up depuis longtemps. Et donc, je pense que ça peut être utile au MJ d'entendre la vision qu'on a chacun et comment on les a fait jouer. Je veux plus vraiment raconter. Comment on les a introduits, comment on les a joués, parce que je vais pas juste relire Sens Cosmo, c'est pas intéressant, les gens savent lire.
D'accord, ouais.
Donc
très bien, très bien.
Donc voilà.
Ok. Alors Beryllium, c'est le premier quadrillade Cosmo que l'on rencontre dans le tout premier scénario de Cosmo, c'est-à-dire que ça y est, les bugs ont vaincu l'aiguilleur et sortent victorieux de l'enfer, donc du globe de Varia lunaire, fort de nouveaux appareils que sont leurs vaisseaux de Philonite, et ils se lancent à corps perdu dans une bataille navale qui semble avoir commencé depuis déjà quelques temps. Oui, une navale spatiale, ouais, excuse-moi. En fait, il faut savoir que la source d'inspiration principale des batailles spatiales dans Star Wars, comme dans Sens, ce sont des batailles navales en réalité. Parce que si on regarde les noms des vaisseaux, ce sont des frégates, des croiseurs, ils portent des noms en fait de...
Puis alors en plus, moi, en ce qui me concerne, il y a une partie bataille navale, juste au-dessus d'Aqua City.
Alors c'est vrai, en plus. Ouais.
Moi aussi, ça a fini comme ça. Les joueurs ont fait une retraite stratégique pour quitter l'espace spatial. Ils ont préféré redescendre à un moment donné, vu que dans la fiction c'était cohérent. Ils sont arrêtés juste au-dessus de l'océan. Et c'est là que l'essentiel de la bataille vraiment s'est passé ensuite. Donc c'était plutôt cool d'avoir toute la flotte résistante à 10 mètres au-dessus de l'eau, tirée vers le ciel avec toute la flotte impériale au-dessus.
Alors évidemment, à l'introduction dont je m'inspire bien sûr dans Sens Cosmo Chaos, c'est l'introduction de Star Wars 3. Dans laquelle effectivement les Jedi arrivent directement en pleine bataille spatiale centrale. On ne sait ni pourquoi ni comment ils sont engagés là-dedans. Il y a un vraiment un bref résumé, et paf, on a une espèce de début comme ça, une media res, voilà, assez spectaculaire. Et c'était vraiment, pour moi, une des scènes. Alors, s'il faut la première trilogie de Star Wars, vraiment, il y a beaucoup de choses à acheter, mais s'il y a vraiment un truc qu'il faut garder, je trouve que c'est ce côté spectaculaire de cette introduction dans Star Wars 3. Le Star Wars 3, globalement, a plein de défauts, bien sûr, mais est moins un Star Wars de la première trilogie qui m'intéresse en termes de construction.
C'est pas le pire des trois, en plus.
Hein. Non, voilà, voir, exactement. C'est même le meilleur. C'est trois, le meilleur. Ouais. C'est sans doute le meilleur. Et donc voilà, on verra que cette première rencontre justement est très très inspirée effectivement de ce premier scénario, en tout cas cette première épreuve est très inspirée de ça. Et donc du coup No Bug arrive alors que le temps semblait s'être arrêté ou devait être arrêté, que la 6 avait promis que le temps dans l'alarme
ah bon, c'est un menteur.
Et en fait
ah bah ça alors
il s'est écoulé vraisemblablement un peu de temps, alors justement ce temps est un peu laissé à la discrétion des meneurs en fonction des
moi, je dis que c'était 48 heures, grosso modo.
Ouais, enfin, je
sais plus.
48-72 heures, il faut quoi.
Ouais. Surtout pour au début, ils se réveillent là où ils ont combattu l'aiguilleur avant. Antoine. Et ils voient tout de suite qu'un peu de temps a passé, parce qu'il y a des banderoles de police, parce qu'il y a eu des explosions avant dans l'aiguilleur, le fragment. Et donc tout de suite, ils voient que du temps est passé et ils stressent. Ça fait combien? Ça fait 6 mois, ça fait machin. Et après, on dit non, ça fait juste 24 heures, 48 heures. Et ils sont là. Ok, ça pue moins, mais ça pue quand même. Et là, SOS, la flotte martienne est en mouvement.
Avait finalement préparé, avait profité de leur combat contre l'aiguilleur pour lancer en fait une attaque, en sachant très bien que l'aiguilleur leur prendrait, leur donnerait du fil à retordre. On avait profité pour lancer une attaque contre Aqua City en réalité.
Moi, je le vois plus comme Miphos devient l'aiguilleur à la fin de Néant, donc il sait qu'il doit aller chercher la rune de Néant. Et y a un temps de latence. Alors, genre,
ça, c'est un peu de MJ.
Ouais, en tant que MJ. Voilà. Il y a un tout petit temps de latence en fait. Il aimerait bien bloquer les bugs le plus longtemps possible parce qu'il aimerait bien récupérer la rune de Néant. Mais le fait est que ça s'est passé juste à la fin de Néant. Et du coup, il y a un temps de latence.
Le temps de latence l'arrange en plus.
Oui, mais en théorie, il a quand même prévu ça avant parce qu'il y a des temps de trajet entre Mars et la Lune et la Terre qui sont de quelques jours au moins normalement. Après, c'est comme le temps est laissé à la discrétion des meneurs, les meneurs peuvent dire que ça fait 2 semaines. Et voilà.
Moi, j'imaginais aussi les quadriades Cosmo, justement, capables de faire des ombres pouvoirs qui permettent de faire passer les vaisseaux dans des portails. Oui.
On l'a déjà vu utiliser des portails. Hein, donc
voilà,
bon,
c'est ça. Donc, exactement.
Beryllium, c'est le videur, c'est le spécialiste des portails.
Oui, donc Beryllium, c'est. C'est ce combat tutoriel où le bug se retrouve à un moment donné projeté à l'intérieur d'un vaisseau. Alors, là aussi, une source d'inspiration dont je m'inspire, et encore une fois, vidéoludique et cinématographique, c'est la maîtrise des espaces. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une scène qui est très spatiale, très grandiose en termes de taille, et d'un coup, on a un bug qui se retrouve précipité dans un vaisseau qui, lui, pour le coup, est composé de salles, de pièces, etc. Et paf, on change d'ambiance, on change d'espace, et c'est là que le géant apparaît.
Il faut vraiment que ce combat se fasse pour moi en solo. Parce qu'en plus, tu viens de briefer les nouvelles règles de Sens Cosmo, parce que tu t'es fait chier à relire Sens Chaos avec à nouveau tout le système. Et il y a quand même un truc nouveau qui est, on encourage, et tu le répètes aux joueurs, on encourage les duels. Et comme tu viens de le dire, moi je le dis même en méta, je vous rappelle, vu que c'est vraiment le scénar tuto, tu fais d'abord une petite bataille dans l'espace, tu montres comment on gère le combat spatial avec éventuellement les plans, ils se répartissent. Et là, les joueurs spontanément, enfin, je pense que ça va marcher à chaque fois, tu vises un joueur, en général le chef d'équipe,
où tu les laisses choisir qui va retarder Beryllium pendant que les autres avancent. Il y a plein de façons dans la fiction d'amener le fait que s'ils commencent à se le faire tous les trois, ils vont perdre trop de temps et perdre l'avantage de la surprise.
Moi, surtout, un truc qui marche bien, c'est de dire, comme j'ai gardé une des règles du playtest qui n'est pas dans le jeu, qui est les formations, le fait que quand ils se mettent en triangle avec un devant, quand ils se mettent en triangle, ils prennent la vitesse de celui qui est devant. Celui qui a le plus de vitesse, c'est celui qui a du chaos. Et donc, c'est nécessairement celui qui va se faire attaquer par Beryllium, parce que Beryllium, son objectif, c'est de ralentir les bugs. Et donc, il va attaquer celui qui a le plus de chaos.
Ah, intéressant.
Et du coup, tu te retrouves nécessairement avec un combat de quelqu'un qui est fort en nombre contre quelqu'un qui est
malin,
fort en lumière.
Maxime, très 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 malin. Très 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 malin, d'accord. Ouais. Du coup, tu te retrouves avec un combat ombre versus lumière, alors qu'on sort de Sens Néant.
Alors moi, ça a été marrant symbolique, parce que c'est le quadriade vie de l'équipe qui s'est interposé pour choper Beryllium qui arrivait, parce que c'est le protecteur et parce qu'il y avait cette optique-là.
Ouais.
Mais par ailleurs, c'était le personnage qui avait fait un golem de l'ombre dans Sens Néant. Donc au final, il y a eu toutes les dynamiques d'ombre contre lumière quand même qui ont eu lieu après. Mais par contre, ma frustration, mais ça, je peux rien, le joueur pouvait pas prévoir, comme c'était le quadriade de vie. Et que même avant, au moment où Beryllium arrive, ils avaient déjà commencé à faire beaucoup de manœuvres dans l'ombre monde. J'ai pas pu faire tout le combat d'explosion, ça rentre dans un vaisseau, etc. Parce que l'ombre monde est vide. à ce moment-là. Et du coup, le combat a été beaucoup dans un espace vide. Il n'y avait pas de vaisseau à péter, de vitres à
péter. C'est pas grave, hein, moi non plus.
Et donc, j'étais en train de me dire, ok, comment je fais pour mettre en scène quelque chose quand même. Mais ça, le combat était très chouette quand même. Et du coup, c'était plus. Et entre Kadria, c'est plus sur l'énergie pure de ce qui
oui,
manifeste.
Moi, je trouve ça cool que Beryllium il arrive et bam, c'est une grosse explosion au milieu des joueurs. Mmh. Bam, tu arrives dans un vaisseau et bam, là, Beryllium arrive, tu balances sa musique et. Bah, nous on a une musique, on utilise une musique d'Advent Children qui envoie de la basse.
Advent Children fait aussi partie de ces, notamment le combat final contre Zephyroth fait aussi partie des grosses inspirations des combats tels qu'ils sont écrits dans les livres de Sens Cosmo, puisqu'on a ces villes, en fait ces villes qui servent de décor et dont on voit que même le moindre building en fait n'est qu'un bout de polystyrène.
C'est un bout de prétexte à être explosé.
Voilà,
quoi.
C'est ça, exactement. Et donc ça c'est vraiment quelque chose. Et aussi pareil la maîtrise des espaces dans ce combat qui est vachement importante, c'est-à-dire qu'on a des scènes où ils sont en haut des buildings et donc il y a énormément d'espace. Ils font des speeches grandiloquents et d'un coup ils se donnent des coups, ils rentrent dans les souterrains, etc. Natacha,
je voulais juste dire un truc en tant que joueuse. Alors je sais pas si cela dit, le système des duels avait été réfléchi à ce moment-là, au moment où on a fait la partie marathon. Donc c'est quand même une dynamique qui s'est retrouvée, mais assez rapidement. Moi, j'ai été rejoint par le personnage de Morgane. Et comme nos personnages avaient une relation amoureuse, je trouvais ça intéressant aussi qu'on se retrouve à lutter à deux contre un personnage.
Oui. Alors, quand on parle de duel, on veut vraiment dire que c'est une entité face à une autre entité. Tu vois ce que je veux dire ? Si vous deux, vous formez un personnage un peu duel, un peu. Ouais. Tu vois, un binôme. Okay. Un binôme, pour moi.
C'est une entité. Okay.
Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est...
Parce que ça servait dans l'argumentaire, en plus, parce qu'il y a eu une discussion avec le Kadria, qui n'était pas Beryllium, mais il y a quand même eu une discussion avec le personnage. Et donc, du coup, ça servait à l'argumentaire que moi j'avais essayé de mettre en jeu. Mais
Moi je pense qu'il faudra voir pour chaque partie, mais pour le moment ce que j'ai vu sur toutes les parties que j'ai vues et playtest, c'est souvent le chef des squads du coup qui se retrouve à combattre Beryllium.
Oui, moi aussi.
Et c'est vraiment cool parce qu'en plus ça établit sa légitimité en tant que chef, parce que c'est lui qui va vaincre pour la première fois un Kadria de Cosmo. Et en termes de. Enfin, moi, le joueur, ça lui a fait vraiment du bien parce qu'en plus, il avait un personnage qui était un chef, mais qui jouait ombre. Il avait joué à cet endroit d'ombre et il avait déjà genre 120 en KO. Donc, un personnage extrêmement torturé. Et le fait d'être le premier à vaincre un Kadria de Cosmo, il était en termes de ludisme, il était à fond quoi. Lui, il était super heureux. Enfin, c'est assez cool. Alors
vraiment, vas-y, Nadia.
Puis alors, je sais pas si c'est le cas sur Otam, mais moi, en plus, à chaque fois, c'est un peu le plus badass, le chef de l'équipe, ou voilà. celui qui est
ça
un peu brut.
De... Gros bourrin,
ouais, c'est ça. Ça fait un peu brut de décoffrage, machin.
Moi, c'était le Kadria le plus bourrin, mais c'était une autre histoire. Mais donc, du coup, comment se passe alors, pourquoi est-ce que Beryllium reste très intéressant? C'est le Kadria bourrin. Genre en plus c'est celui, ils se disent oh mais non, on va pas commencer par lui quoi. Il fait 2m50, c'est une montagne de muscles, ouais plus il fait 3m, enfin bref, c'est un putain de monstre hallucinant, on va se faire démonter. Et là le combat se lance et alors moi je retiens pas quand je lis les dialogues pour chaque Kadria, en général je retiens une phrase.
Oui.
Et là la phrase de Beryllium que j'ai retenu, c'est c'est quand il dit papillon. Ouais. Vous êtes attiré par la lumière. Et quand vous l'atteignez, elle finit par vous brûler. Ouais. Point. Tu retiens ça et...
C'est un peu sa punchline quand même.
C'est ça, tu gardes les punchlines, tu notes quelques éléments de fond pour essayer de les ressortir quand tu peux dans les arguments, etc. Et après, t'improvises, surtout avec ce que le joueur fait en face. Quoi.
Alors, vas-y Natacha.
Alors moi justement, j'ai pas trop aimé cette phrase-là quand je l'avais lue, je m'étais dit mais c'est nul comme phrase.
Oui, mais justement.
Mais en fait, alors, cela dit, parce que je m'étais peut-être arrêtée juste sur le terme de papillon, et maintenant que tu complètes... ça fait plus de sens, mais
c'est complété dans
je
le.
Ah, d'accord, bah, je me suis peut-être arrêtée dans. Voilà, c'est mon souvenir de. Je m'étais dit, mais c'est nul comme punchline. Enfin. Ouais.
Bah, en fait.
Après, bon, c'est peut-être pas aussi. C'est pas du tout celui que je préfère.
Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais en termes de symbolique, le fait que ce soit un géant. Et donc il te.
Oui, non, mais c'est très clair, c'est très clair. C'est juste. Et puis alors en plus, il y a une référence, peut-être que moi j'ai pas, je crois, là-dedans. Il n'y avait pas un truc.
Il n'y a pas une référence à un jeu vidéo avec les papillons, moi ça me dit quelque chose.
Non.
Il n'y a pas un personnage qui dit ça à un autre dans un jeu vidéo, c'est.
Non, c'est vraiment pas une référence cachée.
D'accord.
C'était vraiment.
La symbolique des insectes.
Des insectes attirés par la lumière et des insectes surtout d'éphémères. Rappelez-vous que le papillon, c'est vraiment l'insecte le plus éphémère, mais aussi le plus beau. Et surtout, rappelez-vous que les quadrillas de Cosmo ont cette espèce de propos que l'immortalité est le salut de la vie. Et donc, du coup, les traités de papillons à ce moment-là, ça a du
oui,
sens.
Oui, oui, non, mais.
De voir ce géant, c'est... un géant qui essaye de faire de la poésie, mais qui n'y arrive pas.
Oui,
parce que dans le fond, c'est ça.
C'est ça. Voilà, ok. Voilà. Oui, oui, non, mais ça fait. Du coup, c'est sûr. Et puis après, bon, c'est aussi lié au fait que, bah, encore une fois, c'est celui que j'aime le moins, je pense, dans, les, dans tout. C'est, fin...
Moi, c'est un de mes préférés. Mais parce que justement, c'est le quadrilla qui est là pour poser les enjeux. Et c'est celui qui va, pendant le combat, il va au début l'écraser le joueur en face. Donc il va y avoir vraiment la stature, le truc de 3 mètres qui écrase l'autre. Il va en faire chier, il va le mettre au sol, il va lui briser quelque chose. Tu vois. Enfin, en général, moi, un tip que je donne, c'est que chaque combat de quadrilla doit laisser une cicatrice.
Ouais.
Voire plus selon
c'est
comment les joueurs le jouent.
Pareil, ça c'est dans les règles aussi.
Hein. Et là moi, c'est le quadrilla, enfin Beryllium, il a brisé, il a allongé les doigts d'un des personnages. Ouais. Donc c'était cool.
Oui.
Mais,
référence à quelqu'un.
Oui, référence, mais ça, le joueur a aimé. Mm. Et pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ce personnage? En plus, Beryllium, dans son histoire, donc, qui était à l'origine Cyril Copra de Bonville, qui s'est quand même fait trahir par Ghost.
Tout à fait.
C'est un personnage qu'il déteste et c'est le personnage qui n'a aucun secret à garder et qui va directement dire au joueur: je vois ton miroir, tu n'as aucune chance de me vaincre. Et il est tellement sûr de lui, c'est un géant, une montagne sûre d'elle, qui va commencer à douter. Et c'est pour ça que c'est génial quand c'est quelqu'un qui utilise de l'ombre en face de lui, parce que c'est la première fois que les joueurs
c'est excellent de ta part, effectivement, c'est un excellent choix.
Oui, oui,
je retiens pour
oui,
plus tard.
C'est pour ça qu'on était vraiment d'accord avec toi, Maxime, sur l'introduction.
C'est parce voilà. Et c'est vraiment, ils vont se rendre compte que waouh, le mec il utilise de la lumière, il prévoit toutes les actions à l'avance. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais utiliser des miracles et le faire douter. Et il n'y a que comme ça, c'est le tuto pour dire aux joueurs, en fait vous pouvez l'avoir que par les miracles. Et autrement, vous pouvez pas. Et jouer le Beryllium, en plus, qui est surprise, genre comment mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, mais quand il y a l'intensification et qui fait, mais non, mais ton miroir augmente, mais qu'est-ce qui se passe? C'est
vraiment cool. Hein.
C'est vraiment cool de jouer.
Il y a.
Ouais, je crois que dans son histoire, il y a pas grand-chose de plus en fait.
Il y a l'aspect religieux du personnage qui, moi, m'intéressait un petit
peu.
Ouais,
vas-y, parce que moi, je l'ai pas joué.
Il vient d'une famille qui a une vision de la religion qui est, enfin, c'est presque une espèce de proto-catholisme, une espèce de catholicisme.
C'est un peu un paladin, Beryllium.
Voilà, exactement. C'est un peu cet archétype-là. Donc voilà, je trouvais ça intéressant aussi de les confronter à une espèce de prêtre guerrier, effectivement.
Beryllium, il est là pour poser tous les enjeux des quadrillas de Cosmo, genre vous n'êtes pas éternel.
Voilà, il dit tout. Hein.
Il dit, voilà, il dit balance tout. Il balance tout et il est là pour poser les enjeux de Cosmo.
Quasiment.
Ouais. Moi, je sais pas si c'est mon préféré, mais l'un des points que j'aime le plus, c'est que dans Cosmo, il arrive tôt, il meurt vite.
Oui.
Mais du coup, c'est peut-être celui dont les joueurs se rappelleront le plus. Où moi j'anticipe, je suis que à 3 parties de Chaosmo, mais j'anticipe vachement, je l'ai déjà vu un petit peu, les joueurs qui vont régulièrement y faire référence et se dire: ah, tu te rappelles du combat contre Beryllium, de ce qu'il a amené et tout.
Et puis quand ils apprennent des choses sur lui a posteriori, ils disent: ah merde, si j'avais su, j'aurais fait durer le combat plus longtemps pour en apprendre plus sur lui.
C'est ça. Et moi j'ai un joueur qui a enquêté à fond à Seattle et qui a fait plein de lectures sentimentales là-bas pour découvrir, et c'est comme ça qu'il a découvert qu'il avait une existence humaine, qu'il avait eu une bataille, etc. Ça, c'est très, très chouette.
Moi, ce qui m'a choqué dans le combat, comme mes joueurs l'ont.
J'ai vraiment pitié pour lui.
Ouais, ce qui m'a choqué dans le combat que mon joueur a joué contre lui, c'est qu'il ne voulait pas parler. C'est-à-dire qu'en gros, tu as le quadrilla qui commence à lancer une espèce de dialogue et.
Et l'autre n'a pas répondu.
Mon joueur lui opposait un silence monstrueux et juste, il a commencé à lui balancer de l'ombre dans la gueule comme un gros sac.
Ouais.
Et du
ça,
coup.
Ça t'a frustré.
Ça m'a un peu frustré parce que je n'ai pas pu vraiment raconter son histoire, mais. Et je vais raconter du coup comment ils l'ont battu, parce que je trouve ça magnifique. Il l'a battu en étant... Le combat a été en fait factuellement très court, mais ça a fait quand même pas mal de scènes, parce que pendant ce temps-là, je rappelle que tu passes régulièrement aux autres joueurs pour voir ce qu'ils font pendant ce temps-là. Et quand tu reviens sur Beryllium, moi, à un moment, mon joueur a dit « Ok, bah, je vais mettre tous les points de rayonnement qu'il avait pour faire un miracle. » Et il a fait « Je vais faire un miracle d'ombre, parce que ça avait déjà commencé à marcher, mais ça n'avait pas suffi. » Il a investi toutes ses billes. Il a dit « Ok, je fais une sphère d'ombre dans laquelle Beryllium se retrouve plongé. » Là, je lui dis « Ok. » Et du coup, Beryllium, dans la sphère d'ombre, partout autour de lui, tu vois ses souvenirs. Parce que c'est de l'ombre. Et dans l'ombre, tu vois ta psychologie. Et du coup, il y a tous les souvenirs de Beryllium qui sont apparus.
J'ai eu quelque chose de très similaire. Pas exactement pareil, mais...
Ouais, exactement. Ouais. Beryllium s'est retrouvé dans une chambre d'ombre pour la première fois. Du coup, il a douté. Parce qu'il a vu toute sa vie défiler devant ses yeux. Il a fait, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, et là, mon joueur, qui est un monstre, a dit, ok, bah moi... Enfin, il a dit, ok, bah moi, dans chacun de ses souvenirs, j'apparais et je le tue.
Ouais, alors
et je le tue dans tous ses souvenirs et du coup au passage ça détruit ses souvenirs, donc il perd la mémoire en direct.
J'ai tellement de choses à dire là.
Juste, du coup, je suis d'accord que c'est un monstre sur la deuxième partie de ce que tu disais, mais sur la première partie, sur le fait qu'il ne voulait pas engager le dialogue et qu'il maintenait le silence, c'est très ombre ça aussi en fait. Enfin, c'est génial comme move parce que du coup, il a énormément de cohérence. D'abord, il le met face à. Enfin, il lui montre qu'il est tout seul en fait, qu'il se bat contre un mur presque, et ensuite il rend physique la solitude et le silence. C'est si, enfin, jusqu'à je le tue dans tous ses souvenirs, c'est horrible et atroce, mais en tout cas, c'est très bien vu, quoi.
Ouais, non, mais en fait, c'est vraiment ça. Genre, Beryllium, en fait, tu sens le mec qui est super sûr de lui, mais en fait, s'il y a personne pour lui faire montrer qu'il est si fort, en fait, il est tout seul. Et donc, l'autre en face lui a jamais fait la primeur de lui répondre, et il l'a massacré.
Alors, un des arguments.
Je sais plus ce qu'il lui a sorti comme dernière phrase, attendez, mais c'était beau.
Moi, je vais peut-être vous rappeler des choses en vous rappelant, en fait, un petit peu plus le fond du personnage de Beryllium. Vas-y, Natacha, je t'en prie.
C'est juste, je disais, en fait, c'est un peu l'arbre qui tombe dans la forêt, et exactement, du coup, s'il y a personne pour l'entendre, et ben.
Voilà. Il ne fait pas de bruit. Et très bien. Alors, excellent, ça me permet. C'est une excellente transition vers ce que je voulais dire. Une des sources d'inspiration aussi de ce personnage pour moi, c'est la phrase dans Le Bon, la Brute et le Truand. J'aime les gros parce que quand ils tombent, ça fait boum, quoi. Et c'est une phrase à un moment donné que sans en mode, ça veut dire, tu vois, j'aime les personnages, les antagonistes forts, parce que quand ils tombent, ça fait grand bruit. Et Beryllium, c'est vraiment ça. C'est cet arbre que le bug va pouvoir abattre, et à la fin, Agonis sort, émerge victorieux du vaisseau, répondant ainsi aussi à la phrase de la guerre des immortels, et il dit, on en est capable, on peut le faire. Et ça, c'est très important. Beryllium, c'est le premier quadrilla qu'on peut abattre et qui va montrer aux personnages que les quadrillas de Cosmos sont enfin à leur portée. Et donc, il a une force symbolique aussi. C'est pour ça qu'il porte en fait Beryllium sur ses épaules tous les arguments des quadrillas de Cosmos, et en proto, bien sûr. Ils ne sont pas développés. Ils vont être catchés par des quatre phrases. Ils balancent comme ça très, très rapidement au bug. Et quand il réussit à le vaincre, il a la sensation que c'est l'empire de Miphos tout entier, les certitudes de Miphos et des quadrillas tout entières qui sont en train de s'écrouler et qui font grand bruit. Là où, justement, dans l'espace, on ne peut pas entendre de bruit. Et je crois qu'il y a un jeu comme ça dans le bouquin là-dessus. Alors, c'est donc un personnage de mise en valeur, Beryllium. C'est un géant qui a pour but de montrer non la grandeur des thèses de Miphos et des quadrillas de Cosmos, mais la grandeur des personnages qu'il affronte. C'est enfin dans ce sens, un moment où ce sont les personnages qui deviennent les héros vraiment de l'histoire. C'est là aussi qu'on se rend compte, et c'est pour ça qu'il y a une énorme inspiration Star Wars. Quand on voit dans Star Wars 6, quand Luke Skywalker revient face à Jabba, il semble invincible, comme si du 2 au 3, pardon, du 5 au 6, il avait acquis une force prodigieuse qui sort d'on ne sait où. Et vraiment, le retour des... Je crois qu'il s'appelle le retour des bugs, d'ailleurs, ce scénario, cette épreuve. C'est
le
vraiment...
retour des héros, quelque chose
voilà,
comme ça.
Voilà, c'est ça, retour des Jedi. C'est le moment où les héros, ça y est, sont accomplis et peuvent faire tomber un quadrilla. Ça, c'est un premier point.
C'est un peu
point.
Le porteur de lumière, Beryllium.
Oui, mais le porteur qui s'effondre. Le porteur de la lumière qui s'écroule.
Oui. Ouais. Et donc, du coup, moi, la question que je me pose avec tout ça, c'est est-ce que, du coup, dans Mort, quand il intervient, est-ce qu'on peut déjà les faire parler, selon toi, ou parce que...
Oui, bien sûr. Ouais, une fois qu'on a Cosmo...
Maintenant qu'on a Cosmo, parce qu'à l'époque, on n'osait pas, on ne connaissait pas leurs enjeux.
Ce serait bien de les laisser se taire pour qu'il y ait cet effet de Beryllium, cet effet de souffle, parce que c'est vraiment ça, on parle d'un effet de souffle. Cet effet de souffle dans le premier scénario...
Mais ça, je vais en parler plusieurs fois dans ce podcast. C'est important que les quadrillas de Cosmo, pour la plupart, certains non, mais d'autres... qu'on les voit plusieurs fois dans la campagne, en particulier Elom et Hydrogène. Oui, il faut qu'on les voit plusieurs fois et qu'on échoue ou qu'on ait des égalités plusieurs fois contre eux pour que le combat final soit oufissime.
Et c'est là où dans la bataille, la première bataille, c'est cool. Beryllium, c'est le quadrilla le plus militaire, même dans son histoire,
absolument,
qui est dans l'affrontement spatial. Là où Lithium et éventuellement Hydrogène, si tu les croises, sont dans les combles, sont dans les passages secrets d'Aqua City.
Ouais.
Et là, eux, tu pourras pas les défoncer sur ce coup-là. Lithium a réussi son coup complètement. Il a fait emmener Azilis dans le vaisseau pour l'emmener, etc. Donc à ce moment-là, même si l'un des joueurs vient de défoncer Beryllium, en même temps, moi j'ai eu des combats contre Lithium sous l'eau où les joueurs étaient là. Ok, ça permet de mettre en place aussi une hiérarchie dans les quadrillas de Cosmos.
Oui,
c'est très cool qu'un joueur en duel batte Beryllium et que deux autres joueurs en 2 contre 1 que Lithium les défonce.
Alors,
ça crée vraiment que...
Ouais, attention à la frustration des joueurs. Et en même temps, je dis, l'important, c'est qu'il y en ait au moins un qui meurt au scénar 1. Si c'est pas Beryllium, c'est pas dramatique non plus. Ça peut être lithium. Moi, je pense.
Je suis assez d'accord.
Je pense qu'il ne faut pas que ce soit ni hélium ni hydrogène.
Oui, c'est sûr.
Alors, je préférerais que ce soit lithium pour cette affaire d'effet de souffle. Mais après, oui. Voilà, mais je trouve ça plus important. Beryllium, je préférais que ce soit beryllium qui meure au cours de la première épreuve et que lithium survive pour la simple et bonne raison aussi que l'histoire de lithium est beaucoup plus intéressante à faire découvrir à dans un scénario de Troglonde. Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus dans son contexte. C'est un petit peu comme, tu sais, ces espèces de chevaliers dans Saint Seiya qu'on va... Alors, notamment dans Asgard, ces chevaliers qu'on va combattre sur leur terrain. Et dans le fond, le lieu où on les combat, c'est l'endroit où ils ont grandi, l'endroit où toute leur symbolique est là. Et donc, le lieu est aussi important que le chevalier qui le hante, qui l'habite. Et donc, du coup, pour lithium, ça peut être important.
Et pour beryllium, du coup, ouais, c'est vrai que le cœur du moment où il devient beryllium, c'est quand il y a Ghost qui fait s'écraser un vaisseau ou qui le laisse en se barrant en vaisseau ou un truc dans le genre. Et donc, le fait de le tuer dans un vaisseau, ça va avec. Beryllium est vraiment très lié à la thématique des vaisseaux et de l'armée, quoi.
Je crois qu'on vu tout ce qu'on a à dire sur chaque quadrillage, je crois que tu as conscience, Maxime, qu'on ne pourra pas faire un podcast sur les quadrillages. On a déjà une demi-heure sur beryllium et je pense qu'on en a.
Ça va aller plus vite parce qu'il y avait aussi toute l'intro, je pense, après pour les suivants.
Alors très bien. Alors attends, juste un point. Alors un dernier point. Natacha, tu voulais intervenir.
C'est une question sur, mais ça va enchaîner sur la suite. Je suis paumée dans les noms. C'est lequel qui a un dragon déjà?
Lithium.
C'est lithium. Et du coup, ah oui, d'accord. Parce que du coup, comme nous, on l'a vaincu au premier, enfin, on l'a vaincu en même temps que beryllium. C'est
exactement,
pour ça.
Oui, c'est pour ça que je dis, c'est pas dramatique. Oui, mais attention, on était dans une.
On était dans un marathon. Et...
Non, le dragon l'a combattu avec lithium.
Oui. Mais en fait, on l'a retourné en fait.
Oui, le dragon l'a retourné, mais mes joueurs aussi l'ont retourné. Enfin, c'est très drôle.
D'accord.
Oui, mais du coup, moi j'appelle ça vaincre. Mais
rapidement, avant de passer à lithium, parce que je sens que vous avez envie de faire cette transition vers la lithium, il y a quelque chose de très important qu'a dit Maxime un petit peu en filigrane, mais qui est très important pour beryllium, c'est cette discussion autour de la vie et de sa fin, de l'immortalité. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que ce qu'a fait Maxime en mettant beryllium dans sa chambre d'ombre et en lui montrant sa vie, ça a du sens et ça a de l'importance, c'est que le personnage est prêt. En fait, ce que veut dire ce combat, c'est que quand on est immortel, la vie ne vaut rien. Parce qu'on ne peut pas la perdre.
Oui.
Et c'est un peu cette phrase, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Si à un moment donné, la vie peut s'achever, c'est là alors qu'elle prend tout son sens et qu'on réalise sa valeur. Et ce que vient faire le bug dans ce premier scénar de Sans Chaosmo, c'est achever la vie de beryllium. Et en un sens, il vient lui donner son sens. Et c'est pour ça qu'il est important que beryllium, à la fin, réalise en fait, ah mais oui, ma vie avait de la valeur. Et c'est pour ça que c'est important aussi que le dialogue est dans la base. Donc tout est là. Enfin, je veux dire, j'ai envie de dire, dans ce combat d'introduction, c'est l'introduction, tout est dit. C'est-à-dire que tous les enjeux de Chaosmos sont posés, mais très rapidement, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le temps finalement de le développer, on est en plein combat. Mais si j'ose dire, beaucoup des propos du jeu sont d'ores et déjà énoncés. Donc ça en fait un excellent quadrillage d'introduction.
Et c'est hyper important, voilà, sa dernière phrase face à Agonis dans le bouquin, c'est « Les ténèbres m'envahissent et dans ton ombre je peux voir à présent, je vois les liens, donne-moi ta main, promets-moi que tu montreras ça à Miphos. »
Voilà.
C'est hyper important parce que ça permet aussi aux joueurs en filigrane de leur faire comprendre « Ok, les miracles viennent des liens. » Et ça, les quadrillas ne les voient pas.
Et les quadrillas ne sont pas aveugles aux liens. Quand ils les découvrent, ils ne sont pas en mode « Non, ça vaut rien !» Alors, ça dépend lesquels. Hein. Mais beryllium, par exemple, au contraire, il est là en mode « Ah, tu m'as appris une vérité. »
C'est hyper important
mais
qu'il meure comme ça.
Il est touchant. Il est touchant. Voilà, au bout du bout, pendant tout le combat, il le nie, ce qui se passe en face de lui.
Évidemment.
C'est qu'à la toute fin, quand il se fait achever, qu'il passe le cap.
Mais il finit par être touchant.
Et il peut déjà parler d'atomes aussi. Il y a un build-up à faire autour d'Atome. Bon, Atome, on fera peut-être un podcast dessus.
Faudrait en mettre dans le contexte. Encore une fois, je pense que
ce podcast, peut-être que tu le feras en plusieurs parties. Les quadrillades Cosmo 1, les quadrillades Cosmo 2.
Ouais. Peut-être, oui, que ça, on verra.
Quadrillades Cosmo, le retour de la vengeance.
Alors, devant ce géant colossal qui s'effondre dès le premier scénar, en réponse, il y a l'enfant qui joue Aqua City, ce petit quadrilla monstrueux. Voilà, parce que en fait, ce qui m'amuse beaucoup là-dedans, c'est que le géant est finalement pas si puissant que ça. On sent qu'il est. Le géant a les pieds d'argile. Mais par contre, l'enfant qu'on croise à Aqua City, lui.
Lithium, c'est une araignée, quoi.
Très, très solide. Voilà, oui, c'est l'araignée, complètement. C'est son.
Il est hyper intéressant, Lithium aussi. Alors, c'est celui que j'ai le plus de mal, moi, à faire à jouer, perso, parce que j'ai jamais lu Nietzsche. Et que clairement.
Il y a un speech de Nietzsche.
Mais grosso modo, alors, on rappelle un truc. C'est que, comme d'hab, Romaric, il crée toujours ses persos sur deux runes. C'est-à-dire que dans les maîtres héritants, si vous regardez à chaque fois, il y a le terre eau, terre feu, terre lumière,
évidemment,
terre machin.
Évidemment.
Et du coup, les quadrillades cosmos, c'est pareil. Il va y avoir un cosmo-vie, un cosmo-mort, un cosmo-cosmo, un cosmo-chaos, un cosmo-créa et un cosmo-néant. Et clairement, lithium, c'est le cosmo-chaos. Là où beryllium, je crois que c'est le cosmo-mort.
Ah, je pense que le lithium pourrait être Cosmo mort aussi un peu.
Non, lithium il est Cosmo KO. Il est, enfin, je sais pas. Rome,
je donne pas de réponse.
Rome dira pas de réponse, mais non, il est complètement KO. Lithium, c'est le préféré de Jay. Moi, ça me suffit comme argument.
Je pense que c'est convaincant, effectivement.
Et il est fou. Enfin, il est fou. Et pour moi, tous les persos que j'ai jamais vu être fous, c'est les persos Cosmo KO. Enfin. C'est les gens qui réfléchissent vite.
Création aussi un peu. Hein,
Les créas.
Ouais. Hein, la folie, c'est aussi très création.
Tiens, j'ai oublié un dernier truc pour Beryllium. Il faut savoir que dans les Chevaliers du Zodiaque, le personnage qui est systématiquement affronté dans Saint Seiya à chaque fois qu'un nouveau combat, enfin qu'un nouveau dieu arrive, c'est toujours le plus grand. Le
Taureau,
c'est le plus grand. Ce sera le premier affronté. Dans Asgard, c'est Thor. Donc c'est le géant, etc. Donc ça fait partie aussi quelque part des
clichés japonais.
Cliché Saint Seiya, que j'aime beaucoup. Et je pense lié à ce symbole-là justement, le fait que le plus grand tombe dès le départ. Et puis c'est-à-dire que les autres, s'ils sont grands, c'est par autre chose que la taille. Et il va falloir découvrir en quoi ils le sont.
Voilà. Et Axel Zephon, du coup, lithium, lui. Ce qui est horrible, c'est qu'il est complètement fou et les joueurs le comprennent assez vite. C'est génial. La première fois qu'il le rencontre, c'est dans Aqua City et il faut qu'il perde les joueurs. Enfin, il faut qu'il y ait un statu quo. Il ne gagne pas. Parce que d'un autre côté, tu viens de les faire sortir de la bulle de classique, donc il faut qu'ils soient forts. Mais il faut qu'ils comprennent. En fait, moi, ce que je fais en général, c'est que je me débrouille pour qu'il y ait quelqu'un. Il y ait une situation suffisamment merdique pour que les joueurs se retrouvent entre le choix. Ok, est-ce que je continue à combattre Lithium ou est-ce que je vais sauver des gens?
C'est ça, exactement ouais. Ça. Je pense que moi, ils ont. En fait, ils sentent que si jamais ils allaient à fond contre Lithium. Ça pourrait se tenter, mais ils ont déjà suffisamment à faire avec la bataille, avec Aqua City, etc. Il y a quand même une grosse baston spatiale en cours. Donc c'est pas mal de faire sentir que peut-être que s'ils avaient continué avec Lithium, ils en auraient pris plein la gueule. Peut-être que ça serait passé, mais de garder le doute là-dessus.
C'est bien de garder le doute si jamais ça se passe comme ça. Après, si vraiment ils veulent finir le combat avec Lithium, il y a toujours des solutions. Vous mettez Azilis dans un vaisseau avec quelqu'un de la Némésis, et c'est bon, quoi.
Et puis il y a Mars aussi, parce que Lithium, en fait, c'est deux quadrias. C'est Mars et Lithium, et c'est hyper intéressant, parce que quand les joueurs le voient, ils posent tout de suite la question, genre un dragon de lumière, Mars, et là, ils font le lien. Ils font « Oh putain, c'est le Mars de néant », et ils essayent d'être sympas. Enfin, les joueurs essayent tout de suite de le raisonner.
Ils font le lien avant, parce qu'ils l'ont rencontré dans Sens Mort.
Alors moi, ils n'avaient pas réfléchi, donc...
Moi, ils s'y attendaient.
Ils sont gentils, mes joueurs.
Oui, alors nos joueurs sont intelligents, en fait.
Mais quand ils croisent Mars, surtout, moi, c'est très intéressant parce que c'est le dragon. En fait, le combat se divise en deux. Au début, il ne rencontre pas Lithium, il ne rencontre que Mars dans l'eau. C'est super cool. Parce que moi, c'était le Fragila qu'il a combattu. Donc, le Fragile devenu Kadria.
Ah, trop bien. Ouais.
Et du coup, en utilisant ses yeux de Fragile, il voit les liens. En fait, il voit les fils et il comprend qu'en fait, Mars est emprisonné. En fait, il interprète ça. Moi, j'ai pas dit. Hein. J'ai pas dit Mars est emprisonné dans les fils. J'ai dit juste il y a des fils qui partent de Mars et qui s'en vont ailleurs. Et il se dit oh putain, en fait, il est contrôlé comme une marionnette. Et tout de suite, il cherche à remonter la piste jusqu'au vrai Lithium. Ouais.
Ce qui est exactement ce qui se passe dans la fiction. C'est ça qui est incroyable.
Alors moi, j'ai des questions sur
Mars. Dans la fiction des livres, pardon. Excuse-moi, Antoine.
Moi, j'ai des questions sur Mars parce que c'est un quadrilla vraiment autre chose, je sais pas, qui est pas forcément évident à jouer en dehors de cette relation avec Lithium, de marionnettiste, etc. Ouais. Comment vous envisagez de gérer Mars si jamais les joueurs combattent
les joueurs
Lithium
qui vont le gérer.
Et éliminent Lithium et que Mars se retrouve tout seul? Est-ce que Mars devient un allié potentiellement?
Alors, Mars, je peux te dire comment ça s'est fini pour moi.
Ouais.
Max. Pour moi, je m'étais dit dans ma tête, si ils font juste du combat, quand Lithium mourra et donc disparaîtra, Mars disparaîtra. Et c'est ce qui a commencé à se passer. Sauf qu'il y avait le quadrilla et Noctis qui combattaient le dragon et les deux autres bugs qui combattaient Lithium, Atroglondin. Ils avaient fait en sorte de séparer le combat en deux et le quadrilla a passé son combat à faire une prise de catch au dragon, grosso modo, et a essayé de lui investir des liens. Il a essayé de faire un rituel de forge et un rituel du sentiment non-stop en disant « Souviens-toi de Myriad, souviens-toi !» Et il a fait que des rituels pour invoquer des souvenirs à Mars. Et à la fin, donc quand Lithium est mort et que le dragon a commencé à dire ok, je commence à me, je, ça y est, je vous reconnais, mais malheureusement c'est au dernier moment et je vais mourir. Je les ai regardés, je leur ai fait un truc du genre, il va falloir, je leur ai dit, vous avez à quelle hauteur êtes-vous lié à Mars?
Tu veux dire
sur leur fiche de perso, sur leur fiche de lien,
de néant,
sur leur fiche de Cosmo parce que t'as une fiche de lien maintenant. Et je leur dis à quelle hauteur vous êtes lié à Mars. Et là, tous, ils ont pris leur crayon en mode je me rajoute 5 points de lien. Et tous, ils se sont liés. Et je me suis dit dans ma tête, s'ils sont suffisamment liés, alors ils restent.
Et c'est une très bonne idée, ça, de le mettre en scène comme ça.
S'ils sont liés à Mars, Parce que c'est tout le principe des quadrilles
de
Cosmo.
C'est le combat contre Helium qui t'a donné cette idée, je pense.
Le combat.
Dans le livre.
Oui, très sûrement. En tout cas, la thématique du fait que tout dans Cosmo, la seule chose qui permet aux joueurs de vaincre les quadrilles de Cosmo, c'est leurs liens. Et donc, factuellement, en méta, c'est les liens qu'eux, ils ont écrits. Et s'ils sont liés à Lithium, s'ils sont liés à Mars, alors ils peuvent le maintenir en vie. Et c'est ce qui s'est passé. Je leur ai dit, OK. Et même Mars a été surpris. Il était là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'ai pas disparu? Et c'est les joueurs qui leur ont fait...
Les liens permettent de résister en quelque sorte au choc ontologique.
Oui, voilà, les liens permettent de résister au choc ontologique. Et par contre, il leur a dit, je peux vous parler de mes amis, mais les quadrilles de Cosmo restent mes frères. Je ne les trahirai pas. Je ne les combattrai pas à vos côtés. Par contre, je veux bien garder trop glonde.
Voilà, oui, oui, ça c'est typique.
C'est pas mal ça, ouais.
Oui. Est... Bah, c'est... Encore une fois, c'est du Saint-Séya, ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vaincu Chevalier d'Or, je vais rester ici, garder ma maison au cas où il y a.
Une mini question annexe, mais qui est plus technique. Dans quelle mesure Mars parle librement de tout et de rien et qu'il peut. Parce que si jamais
il tant que Lithium n'est pas mort, pour moi, il parle pas.
Voilà, déjà. Et ensuite, est-ce que ça devient pas trop explicite s'il commence à dire oui, Myria, je me rappelle très bien, ça existait, c'était le. Enfin,
justement, pour
ça,
moi.
Si on veut garder les ambiguïtés là-dessus, que dit, avoir juste une punchline du type ah, je me souviens de vous,
ah non.
Ça peut être
c'était à la fin. C'est à la fin qu'il s'en est souvenu. C'est, ouais. C'est à la fin. Et en fait, moi, pendant tout le combat. Pendant tout le combat, oui, exactement, déjà. Et pendant tout le combat, pour moi, les câbles de Lithium. Enserrer sa gueule.
C'est super intéressant.
Ah, comme une muselière.
Oui, il avait une muselière. Ouais. Il avait, les cheveux de Lithium faisaient aussi une muselière à Mars. C'était sa marionnette. Et après, c'est comment les joueurs le prennent. Et est-ce que les joueurs s'attachent à Mars pour le sauver ou pas?
Ouais, c'est pour ça que c'est mes préférés, ces deux-là.
C'est parce qu'on ne sait pas si les câbles... En fait, que
ouais,
symbolisent
pour l'ambiguïté,
les fils
pour le,
tressés...
Pour ce que ça veut dire sur la fiction. Pour, ouais. Ouais, c'est cela que j'aime.
Le quadrilla, est-ce que c'est Mars ou est-ce que c'est Lithium?
Ça, c'est
oui,
une autre
tout
question.
À fait, ouais.
Et moi, j'ai tendance à laisser mes joueurs trancher, entre guillemets, entre le dragon et son porteur. Parfois même, on réalise que le dragon est une projection du porteur. Parce que je vous rappelle que je crois qu'il y a cette scène dans Décrite, dans Chaos ou dans Cosmo, je ne sais plus, dans laquelle on voit les parents de Lithium qui sont ensevelis sous un tas de gravats et les gens qui commencent à s'entretuer, à se bouffer entre eux.
La thématique, c'est Naruto, enfin.
Et le gamin qui reste tout seul avec son doudou en forme de dragon. Est-ce que Mars... n'est pas l'objet transactionnel de Lithium, dans lequel il s'est tellement projeté qu'il a créé des liens à lui, et ce faisant l'a fait exister à travers son propre truc. Et donc, il y a plein de manières de voir les liens entre ces deux personnages. Les liens, effectivement, peuvent être ceux qui enserrent, ceux qui
oui.
Arrêtent.
Pour moi, la thématique intéressante de Lithium, c'est les liens.
Les liens.
Les liens sont aussi des...
La vie ne tient qu'à un fil.
La vie ne tient qu'à... Ouais, c'est sa punchline. Sa punchline, c'est la vie ne tient qu'à un fil. Mais surtout, il montre que, OK, les liens, c'est votre puissance. Mais rendez-vous compte de ce que vous faites. En vous liant aux gens et en faisant des rituels.
Vous les enserrez aussi.
Vous les enserrez et vous brisez leur volonté et vous en faites vos marionnettes. Exactement. À partir de Lithium, ils ont comme...
Vous les enfermez dans un déterminisme.
Exactement.
Et surtout que c'est à Troglonde que les joueurs se retrouvent à être dans une situation sociale. Et moi, c'est dans ce scénar-là qu'ils se sont rendus compte que, mais putain, mais avec le rituel de sentiment, on peut faire ce qu'on veut. Et vu qu'ils s'en sont rendus compte à ce moment-là, ils se sont dit, mais c'est dégueulasse, on est vraiment des dieux surpuissants, on fait ce qu'on veut. Parce qu'avec le moindre rituel du sentiment, ils changent, ils manipulent les gens comme ils veulent. Les
ça,
gens
ça, techniquement, ils auraient pu s'en apercevoir des néants, en fait. Mais...
Oui, bien sûr. Mais une chose est de le savoir et de s'en apercevoir. Une autre est de le vivre en scénario
et de
l'expérimenter.
Et c'est en plus, en tant que néant, ce sont des joueurs qui jouent des PJ. Là, ce sont eux-mêmes, ce sont les PJ quoi, directement.
Oui.
Et c'est
donc
des humains devant eux.
Ils sont responsables du truc.
Oui, bien sûr, c'est sûr. Et puis ils sont mis, c'est là où ils sont mis face à leur responsabilité.
Voilà, quand ils manipulent quelqu'un pour qu'il agisse selon leur propre volonté, c'est vraiment dégueulasse quoi. Et vraiment, ouais, c'est.
Lithium est construit sur la thématique de la corde et du fil. Toute son histoire, tout est fil, tout est corde, tout est voilà la
et
corde suspendue au-dessus d'un abîme.
Je me suis inspiré moi du dans Naruto Shippuden du membre de l'Akatsuki qui est un marionnettiste.
Je l'ai pas vu.
Ah c'est
pourtant,
c'est lui.
C'est exactement ça. Enfin,
d'accord. Okay.
Ouais.
Il a fait des marionnettes avec ses parents pour
oh, putain, je l'ai pas vu.
Pour que.
Ah alors moi je pensais à celui de
le gentil.
Celui qui. Oui mais aussi en fait c'est un peu les mêmes trucs mais je pensais à celui qui maîtrise d'autres corps que le sien.
Attention Natacha, tu t'es
levé de ton micro. Pardon. Celui qui maîtrise d'autres corps que le sien.
Je me souviens plus.
Bon, peu importe.
Ah si Shikamaru.
Non, dans le Katsuki, celui qui...
Ah oui, ça y est, je vois. Celui avec des fils noirs.
Oui, c'est ça, qui est avec la nana qui maîtrise les papiers, là.
C'est un mec. Mais
en tout cas, il y a des thématiques...
Celle qui maîtrise les papiers, c'est une nana. Hein.
Non, c'est un mec, je crois. De toute façon, c'est un truc japonais,
on
sait jamais.
On n'est pas là pour parler de Naruto.
Mais oui, alors ce personnage-là est génial parce qu'en fait, tu découvres en plus, au fur et à mesure du combat, tu vois, il utilise d'abord une marionnette surpuissante dans laquelle il est capable de se cacher. Ouais. Puis, quand tu lui détruis sa première marionnette, il en utilise d'autres. Et au bout d'un moment, il utilise ses marionnettes, il utilise sa marionnette la plus puissante qui est en fait lui-même. En fait, son propre corps est un corps de marionnette et il n'y a plus que son cœur qui est réel. Et donc, son attaque ultime, c'est qu'il met des fils partout dans la pièce. Et en gros, Sakura, quand elle le combat, si elle touche le moindre fil, elle va mourir. Et l'image de fin est magnifique parce que du coup, sa grand-mère, qui est une marionnettiste aussi, le bat en utilisant des marionnettes basées sur le modèle de ses parents à lui.
Que lui avait créé.
Voilà, que lui avait créé. C'est ses deux premières marionnettes en tant que marionnettiste avant qu'il devienne méchant. Et l'image de fin, c'est les deux marionnettes de ses deux parents qui arrivent sur le côté et qui en fait le transpercent des deux côtés. Et ça fait la même image que quand il était petit et qu'il lui avait fait un câlin. Enfin non, il les avait fait ces marionnettes-là pour avoir un câlin de ses parents.
C'est énorme. Putain, il faut que je vois ce truc.
Et surtout, au moment où sa grand-mère sort ses marionnettes, le méchant en question dit « Mais pourquoi tu sors ces marionnettes? Tu vas pas me battre avec ça, c'est absurde. » Parce que lui, il nie complètement ses émotions et ses sentiments. Et il dit « Tu penses que tu les sors pour m'affecter, mais tu rêves. » Et en fait, ça l'affecte. Et c'est avec ça qu'elle gagne.
Et en plus, elle le dit elle-même, c'est à la fin, il aurait pu esquiver le coup.
Mais il a choisi de mourir comme ça.
Parce qu'il voulait une dernière fois la présence de ses parents, en fait. Oh là 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 là.
C'est génial. Ouais,
pour Lithium,
c'est
ouf. Super son inspiration, j'avais pas pensé, mais je vais revoir ça.
L'autre chose, c'est les câbles et l'image de la marionnette et de ses fils. Moi, je trouve qu'il y a un motif aussi qui m'avait rappelé le trône de l'empereur. C'est aussi ce même aspect où on sait plus qui contrôle qui.
Symbole de déterminisme, ouais. Évidemment. Alors, il y a aussi l'araignée dont on parlait très. Attends. Très très important aussi ce que tu as dit Maxime tout à l'heure sur le fait que c'est l'araignée au sens voilà, il te prend dans sa toile, dans ses filets, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'aime bien qu'il soit vaincu à Troglonde, c'est qu'à Troglonde on est dans sa toile, dans la toile de Zéphon.
C'est une des quatre maisons dominantes c'est une des quatre maisons dominantes de Troglonde, c'est celle dont on n'entend plus parler depuis des plombes. Mmh. Et qui est avec les MST, avec les Mantères, les Sauragols et les Tigani. C'est facile de retenir. Oui, Classis peut faire la blague. Enfin, Mercure et Classis peuvent faire la blague.
Ou Michel Cetra.
Moi, je l'avais fait dans Troglonde avec il y avait des écrans lumineux avec marqué attention, vous êtes dans la toile de l'adversaire. Méfiez-vous des MST. Protégez-vous, sortez couverts. Protégez-vous des MST.
Effectivement, tu parles de son histoire. Peut-être pas rentrer dans ces détails-là. On laisse aussi les auditeurs pouvoir découvrir des choses à ce niveau-là. Tout ce que je veux dire, c'est que Zéphon, c'est le nom d'un des frères de Raziel dans Legacy of Kain, et c'est l'araignée. Voilà.
Je connaissais pas cette
donc
référence.
C'est une petite référence. C'est juste ce que je voulais ajouter par rapport à Lithium. Quel est l'autre personnage ensuite
Alors attends, moi juste Lithium. Je veux dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à le jouer.
D'accord.
Moi, j'y arrivais pas parce que, comme je dis, j'ai pas lu de Nietzsche. Et sortir des phrases philosophico-what the fuck du chaos par un personnage cosmo, ça fait vraiment le personnage avec qui on peut pas discuter. Parce que Beryllium, tu pourrais discuter avec lui, mais en fait, on a pas envie, t'as juste envie de lui péter la gueule. Et Lithium, c'est la deuxième fois que tu le vois quand même. Hein. La première fois, ils l'ont vu avec Mars. Enfin, deux rencontres, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus.
Lithium parle la première fois, par contre.
Lithium, il parle la première fois.
Il y a une espèce de discours autour de Miphos, ouais. Où il explique le plan de Miphos et tout.
Et là, pour moi, quand on est chez lui, au fur et à mesure du combat, alors ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, il a la carapace du fou. L'équivalent de la carapace du fou. C'est-à-dire que plus tu le tapes, plus il devient malade et plus il raconte des conneries et plus il.
Et en plus, ce qui est compliqué, c'est d'après ce que tu dis et d'après ce que je comprends, c'est qu'il faut arriver à sortir des phrases philosophiques what the fuck. Et alors, je pense aux histoires d'ours et d'étoiles, moi, quand je pense à Nietzsche, par exemple, sans que ce soit drôle. Ou que ça fasse rire, ou tu vois que ça même sans que ça propose même un rire de malaise, c'est déjà trop en fait. Il faut que ça
Et ce qui est très intéressant, c'est que contre Lithium, moi j'ai joué le fait que les attaques d'ombre, ça fonctionnait vachement moins bien parce qu'il est Cosmo Chaos.
Ah, marrant ça.
Et du coup, les attaques. Alors, par contre, le truc à pas faire, la lumière peut quand même fonctionner contre les guerriers de Cosmo. Sinon, celui qui a joué à cette centrale de lumière ou qui est trop Cosmo, ils se sont tellement inutiles que c'est très.
Alors,
débile.
Oui, et puis alors, selon ton interprétation, on le rappelle oui. aussi. Hein,
selon ton interprétation. Mais moi.
Que je trouve justifié, mais juste quoi. C'est que si jamais c'est pas toutes celles des auditeurs, je pense que c'est bien aussi de.
Ah, moi, ils ont fini par le plonger dans la lave à la fin, vu qu'il y a des trucs avec de la lave.
Et il y a sa main qui disparaît comme Terminator. En
fait, là où j'ai déconné, moi, parce que ça a créé un problème, c'est que mes joueurs, ils étaient à 2 contre 1 et ça m'a un peu saoulé. Du coup, ils l'ont un peu défoncé. Et au dernier moment, il était dans la lave. Et en fait, ce qui est très cool comme fin, c'est qu'ils font dans la lave. Et là, les joueurs font on a gagné. Et là, il y en a un qui se fait tirer dans la lave par le dernier cheveu de lithium qui était accroché à lui. Et alors là, les joueurs, ils vont réagir. Mais moi, il y en a un qui a dû utiliser le miracle de l'intervention pour sauver son pote. Et comme j'avais quand même envie de le mec, c'est ok, tu l'as sauvé, mais il y a des éclats de lave qui t'ont brûlé. Le joueur n'a pas apprécié.
Ah merde,
on en a parlé après. C'était classe, mais il voulait pas ça parce qu'en fait, il y en avait eu sur son visage et le personnage tenait énormément au visage de son personnage.
Ah oui, d'accord.
Mais tu pouvais le mettre sur le bras, du coup.
Non, mais plus tard, on a discuté et en fait, on a dit que. Enfin, on va pas se mentir, le corps des bugs, c'est une philonite géante. Et en fait, oui. Au bout d'un moment, les tatouages. En fait, les brûlures sont devenues des espèces tatouages. De tatouages qui pouvaient bouger. Et en fait, les brûlures se sont mis dans son dos en forme d'araignée, en référence à lithium.
D'accord.
Très bien, très bien.
Donc, il avait une araignée dans le dos, quoi.
Un autre des propos de lithium aussi, mais bon, peut-être un peu moins important, mais c'est cette histoire d'observation de la vie et de connaissance de la vie.
Oui, c'est vrai. Juste malsin, savant fou.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a la sensation.
C'est un naturaliste de extrême.
Il a la sensation qu'il connaît la vie parce qu'il sait imiter parfaitement ses mouvements.
Je connais tous les angles de rotation de ses membres.
Voilà, mais c'est ça,
il est en synesthésie totale avec le problème de la métallite quand tu vas rencontrer. Il est en train de leur dire non, mais à partir du moment où tu imites parfaitement la vie, en quoi est-ce que c'est pas vivant? Quand tu sais, toi, que juste après ils vont découvrir la respiration, c'est oufissime parce que c'est un build-up. Le combat contre lithium est un build-up complet à la révélation d'après, et c'est en ça que le scénario des Troglondes est super bien écrit.
Mais la révélation de la respiration, elle arrive pas avant le combat contre
lithium? Non, juste après.
Elle arrive juste après.
C'est très important qu'elle arrive juste après.
Et là aussi, les liens et les marionnettes, moi, c'est un truc que j'ai très envie de décrire, c'est de mettre des espèces de câbles dans la ville de la respiration aussi, tu vois, pour continuer sur ce motif.
Sachant que dans l'usine créer des robots métalliques, il y en a déjà à ce moment-là.
Dans l'usine, pour moi, je décris vraiment une espèce de bras mécanique qui vient, qui prend les gens et se...
On peut imaginer
qu'il les rebuild, qu'il est comme des poupées. Et en fait, il découvre. Et en fait, à ce moment-là, surtout que dans Troglonde, il y a un moment où, quand ils étaient passés dans l'ombre monde puis revenus dans la réalité, il y a tout le monde dans Troglonde qui leur tire dessus. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, tout le monde peut être manipulé. Et ils comprennent après pourquoi. Donc, tout le truc en mode lithium est un marionnettiste, oui. Mais les gars, lui, il est gentil comme marionnettiste, quoi, par rapport à ce que les autres sont en train de faire.
Le puppet master.
C'est intéressant aussi quand il dit l'imitation parfaite de la vie ou tout ça, ça veut dire que ça laisse un interscénar pour la discussion entre les joueurs, pour qu'il y ait une vraie discussion avant que le problème se pose vraiment, quoi.
Et en fait, ce qui est génial, c'est que tout ce scénar, moi, c'est un scénar clé dans Chaos, parce que c'est le truc qui va mettre une thématique hyper profonde pour les joueurs. Parce que le moment où, ok, manipulation, ok, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes des puppet masters, quand ils découvrent qu'en fait l'intégralité des habitants de Mars subissent la respiration et ne sont en fait que des poupées de métallite, là la question de c'est quoi être humain, même si elle était posée en se battant avant contre lithium, là elle est posée au calme. Et moi en fait, quand j'ai fait scénar, là la discussion, le scénar s'est terminé avec les joueurs qui en parlaient. Parce qu'au début, c'est les personnages qui discutent, et très rapidement, c'est devenu les joueurs. Et moi, je suis allé me coucher. Parce que mes joueurs, ils ont parlé de ça pendant 3 heures. Et ils n'étaient pas d'accord autour de la table.
Ouais, c'est ça qui est intéressant.
T'en avais vraiment un qui disait non.
Et pour moi, c'est là que la vraie partie de sens commence. En fait.
Voilà, il y en avait un qui disait non. Pour le moment, ce n'est pas des humains.
Ouais. Ça, c'est la problématique centrale de sens.
Il y en a toujours un qui dit c'est une nouvelle race d'humains. Et si on arrête de les reprogrammer, alors ça deviendra vraiment des humains libres. Il y en a un qui dit non, à partir du moment où ils ont ne serait-ce que la possibilité d'être reprogrammés, c'est plus des humains. Et moi, mon quadrilla disait carrément, c'est de la merde. C'est pas de l'humain, c'est dégueulasse. Regardez, il en prend un, il l'ouvre en deux.
Oui, alors ce que j'ai très envie de faire en tant que MJ, c'est donc sur mes deux tables, bon, à un moment donné, je vais les réunir et je pense que je ferai en marathon, tant pis, je peux pas faire autrement pour des contraintes de temps et de lieu. Mais ce que j'ai très envie de faire, sur chacune des tables, j'ai des joueurs qui sont partis en cours de route, c'est de reprendre leurs personnages et de les faire rencontrer dans la ville de la respiration. et de dire bah voilà, ils ont voyagé jusqu'à Mars, ils ont une vie sur Mars maintenant, et donc ils vont faire le scénario avec eux comme si c'était leur pote qui était revenu, quoi. Et en fait, ils sont manipulés par la respiration.
C'est magnifique. Hein.
Et yes. Donc voilà, pour Lithium, c'est très intéressant de le rencontrer une première fois, de se terminer sur un statu quo. Et lors du deuxième combat, bah, ils le mènent comme ils veulent le combat, mais c'est très intéressant encore une fois qu'ils gagnent. Et la conséquence intéressante de ce combat, c'est Mars dans tout ça. Ouais. Et de mettre en place tout le build-up sur le magnétisme, le lien entre la copie de la vie, la respiration. C'est, tout ça va ensemble, ce qui fait un scénar très long. Mais
il est extrêmement long, hein. Ça, j'en ai parfaitement.
Mais il faut le faire en une seule fois pour moi. Ouais. Enfin, il est très important de le faire en une seule fois pour maintenir l'attention jusqu'au bout.
Alors, en tout cas, bon, moi je pense que c'est un de mes scénars préférés.
D'ailleurs, non, en fait, il y en a 7 des quadrillades Cosmos, je réalise.
Même si j'aime bien.
Non, hélium, hydrogène, beryllium, lithium, tantale, mercure et sélénium. Ouais. Ça fait 7 quadrillades Cosmos.
Ouais. Trop bizarre.
Peut-être que trop Mercure
bizarre,
en fait.
C'est ce truc bizarre, oui.
Parce qu'en fait, entre temps, c'est devenu Harry Potter en fait, l'univers de sens.
Ah, pardon, mince.
Donc du coup, c'est 7. Voilà, c'était plus 6.
C'est pour ça que
alors, il y en a un, il y a Cosmo Chaos, Cosmo Vie, Cosmo Machin. Il y en a un, il est Cosmo Marshmallow. On sait pas. Yeah.
Bonus, bah, celui sur lequel on va se poser des. Enfin, il y en a plusieurs sur qui on va se poser vraiment des questions.
Après, vous connaissez la théorie des quadrillades Cosmo.
Mercure,
pièce d'échec aussi, non?
Mercure, Cosmo Créa, mais on va.
La théorie des quadrillades Cosmo comme pièce d'échec.
Mercure, c'est Cosmo.
Non, mais ça fait sens aussi.
Tornade, enfin c'est autre chose.
Hein, Max, pardon. La théorie des quadrillades Cosmo comme pièce d'échec.
Et Mercure, c'est la tour. Ouais. Et lithium, c'est le fou. La reine, c'est hélium. Et le roi, c'est hydrogène.
Beryllium, c'est le cavalier du coup.
Non, le cavalier, ce serait sélénium peut-être.
Ouais. Ou une forme de fou aussi. Enfin, voilà. Non, beryllium, c'est le.
Non, parce que le roi, c'est Atom.
Je trouve qu'il fallait l'évoquer parce que sinon, Vincent, je pense, n'aurait pas été content.
Ah,
oui.
Ah, et le cavalier, ce serait qui ? Il nous manque Mercure et. Non, il y en a un qu'on oublie.
Et beryllium, c'est une tour aussi.
Beryllium, c'est une tour, c'est sûr.
Voilà, les noms des carapaces et effectivement, les différents aspects de ces quadrillas peuvent effectivement faire penser à des pièces d'échecs, d'autant plus que Miphos Quadrilla est souvent décrit comme un stratège, un joueur d'échecs et compagnie. Il y a toute une espèce de symbolique.
Solifie sa bouger son pion, maintenant c'est à toi.
Il y a aussi le fait les tours noires et blanches qui s'alternent dans
ça, c'est dans, on en parlera quand on parlera d'hélium et
alors justement alors ouais. tu veux commencer par qui là?
Alors là on passe à Tantale, on passe
à Tantale, ouais. D'accord,
on est sur la respiration. On passe à Tantale, donc Alessandro Valles Pluto. Désolé, mais ce nom
à chaque fois tu dis les noms des, alors ce qu'il faut préciser, c'est à chaque fois tu précises les noms que ces quadrillas avaient lorsqu'ils étaient des humains.
Mais pourquoi? Alors parce que c'est très important, quand les joueurs iront dans les labos et découvriront les expériences de Miphos, c'est hyper important que, pour moi, il y a un moment, ils trouvent une pièce où il y a les corps qui étaient maintenus en cryogénie.
Ouais. Et les noms.
Et les noms dessus. Mmh. Et là, pensez à. Moi, j'ai fait un truc. Pensez, si vous avez un fragile à votre table,
ouais,
de lui dire
ce nom.
Quel est le nom? Tu lui dis tous les noms. Tu lui dis, quel est le nom qui t'inspire le plus?
Ouais, ouais.
Et là, quand il y en a toujours un, et je lui dis, bah ouais, c'est le tien.
C'est le tien.
Parce qu'en fait, ton fragile, parce que t'en auras qu'un à ta table, peut être l'image d'un des quadrillas de Cosmo.
Oui, tout à fait.
Parce que les quadrillas de Cosmo, c'est l'ombre fragile, en fait.
Exactement.
Ah, tu l'as confirmé, ça. Parce que moi, j'en étais resté à tu laisses planer le doute. Donc,
c'est clair dans Cosmo.
C'est clair, ouais.
Mais dans Cosmo, c'est dit. Miphos, il fait des bugs dans la réalité, il les enlève et il met un clone à la place. Donc, dans l'ombre monde, ça va devenir un quadrilla de Cosmo. Mais dans la réalité,
il les récupère et il en fait des fragiles. C'est complètement logique, c'est tout à fait cohérent et tout. C'est juste que
les fragiles sont des bugs de Cosmo.
Quand on en avait discuté, enfin, je me souviens d'une discussion où tu avais dit il y aura pas de bugs de Cosmo, il y aura pas de machin, il y aura pas de.
Oui, c'est-à-dire qu'il y aura pas de bugs de Cosmo jouables au sens parce que il en était question au départ. C'est-à-dire, à un moment donné, Ghost a été joué par Pierre Fournier à l'époque. On avait la possibilité dans Sens Cosmo de jouer des Némésis ou alors de jouer des bugs de Cosmo non fragilisés, si j'ose dire.
Oui.
Et c'est ça que j'ai interdit finalement, et donc Ghost qui devient une espèce de bug difforme, un peu anormal, un peu voilà. Mais c'était
peut-être aussi dans une discussion sur des éventuels quadrillas de chaos. Et oui. Du coup.
Ça veut dire que Ghost et l'image d'un quadrillade de...
Oui, et ça, c'était une discussion qu'on avait eue en termes d'incohérence. C'est qu'en fait, Ombre Ghost, quand dans le dans la beryllium.
C'est pas une incohérence, Maxime. Je te le dis tout de suite. Je, c'est vrai, on en a beaucoup discuté.
On a discuté. T'as fait en sorte que ça en soit pas une. C'est vrai. En fait, dans la fiction.
T'exagères. Non, oui, d'accord, ok.
Dans la fiction, Beryllium s'est vengé d'Ombre Ghost.
Oui, il a été massacré.
Il l'a massacré, sauf que. Mais non, mais tu l'as rajouté, c'est vrai, tu l'as rajouté dans le bouquin, donc ça va. Qu'en fait, il massacre Ghost, Ombre Ghost, au point donc, que le Kadriak qu'il aurait pu devenir n'existe voilà, jamais.
Donc en relecture, Maxime me dit, mais théoriquement, quand il massacre Ombre Ghost, il devra en émerger un Kadriak de Cosmo. Et moi, dans ma tête, c'était clair pour moi qu'il avait fini le travail. C'est-à-dire qu'il avait tué non seulement le bug et que quand celui-ci s'était incarné en Kadriak Cosmo. Mais ce faisant, me demande si Beryllium.
Mais Beryllium, moi, ce que j'ai mis dans ses souvenirs, c'est que j'ai mis qu'en fait, il l'avait vu. Il a vu que ça allait devenir un Kadriak Cosmo. Oui. Mais.
Avis, quelles conséquences ça peut avoir sur sa psyché, ça aussi, à Beryllium?
Il a trahi déjà, en fait. Beryllium, il a déjà trahi, en quelque sorte. Il a préféré laisser passer son lien à lui de haine envers Ghost avant sa mission.
Surtout, il sait que les bugs. Sont des. Que les bugs qui meurent deviennent des Kadriak, lui, parce qu'il l'a vu de ses yeux. Je me demande jusqu'où ça et peut donc, avoir un impact sur. Le coup, lui, il se voit comme un bug réalisé, Beryllium, immortel. Il se voit comme la. En fait, quand il se bat contre Agonis au départ, il lui dit regarde ce que tu deviens, tu vas devenir moi. C'est quand même nettement plus classe que ce que tu es toi. Tu vois ce que je veux dire quelque part.
Tu préfères être un dieu ou un papillon
ouais, c'est ça, exactement.
Juste une question pour être sûr, le ghost du monde réel peut aussi devenir un Kadriak à sa mort. Il y avait quelque chose qui était mentionné.
Oui.
Ombre ghost tout comme ghost, les deux.
Mais quel genre de Kadriak deviendrait-il? Et là, c'est la question. Est-ce que si par exemple. Alors, je vous donne un exemple concret. À un moment donné, Ghost réalise qu'il est un bug, décide de passer dans l'ombre monde. Alors, déjà, c'est difficile parce qu'il faudrait que Ghost soit joué par un joueur, mais on peut imaginer un MJ qui dise à un moment donné Ghost est joué par un joueur. Non, Ghost,
il met, Ghost, il met son armure, donc il pourrait très bien emmener le combat dans l'ombre monde.
Parce que son armure, elle n'est pas hermétique. Ouais. Elle est difforme, elle ne lui permet pas de résister.
C'est pas le même design.
Pas le même design, tu vois. Elle est pas, justement, c'est l'intérêt de Solipsis, c'est qu'elle arrive derrière pour créer des. Donc, pour moi, s'il passe dans l'ombre monde, il subit une choc ontologique. Et là, surprise, au lieu de mourir, il devient un Kadriak. Question, quel Kadriak devient-il? Est-ce qu'il devient un Kadriak de Cosmo?
Bah oui. Oh,
pas du tout.
Bah si.
Bon, non.
Tu es un Kadriak de mort pour toi?
Oui. Plutôt.
Valès plutôt.
Mes joueurs ont défoncé Ghost.
Et tout,
moi je pense.
Mes joueurs ont défoncé Ghost de façon tellement violente que je trouvais qu'il était parti très vite et je me demandais comment le ramener en Kadriak Wout, mais en Kadriak de mort, c'est vachement mieux.
Mais oui,
mais c'est chaud parce que du coup, il faut trouver un bouquin pour l'anéantir.
Ils ont le rayonnement maintenant.
C'est pas faux.
On peut oublier ça.
Mais c'est juste que moi je me dis que, à votre avis, quelle est la rune dominante de Ghost déjà? Première question. C'est la mort.
La mort.
Bon ouais.
Il est vénère.
Pour moi, c'est clair.
Oui. Oui, d'accord.
Voilà, c'est dans ce sens.
De toute façon, le Kadriak Cosmovis, c'est Helium. Mais bon. Non.
On parle de Tantale peut-être.
Tantale, ouais. Tantale, donc le Cosmonéon, Cosmocréa. Cosmocréa. Ah bah oui, il veut créer la vie. Cosmovie, il est même peut-être Cosmovie, lui il veut protéger les gens en fait.
Bah non, il n'est pas vie au sens.
Il est vie autant qu'il peut.
Accordez-lui
pour toi, ça. Pour toi, le Cosmo, c'est qui?
C'est l'hydrogène. Le Cosmo, c'est l'hydrogène.
Je sais pas.
Je pense que.
Maxime, mais je suis biaisé.
Maxime est biaisé parce qu'il connaît les sources d'inspiration du personnage.
D'accord. Bah, peut-être plus Cosmocréa alors, ouais.
Alors, moi je le joue, Tantale, c'est. Enfin, il est très bien écrit. Moi, je le trouve très bien écrit, même si le côté vampire, je le trouve inutile.
Oh non.
Ça, il n'a pas besoin de ça.
Oh, allez, Castlevania, tout ça.
Il a vraiment...
La pop culture, quand
même. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est que les bugs ne le rencontreront pas avant la fin. Moi, ils l'ont rencontré une première fois. Ils l'ont rencontré à Galahad. C'est-à-dire qu'en fait, les bugs ont fouillé Galahad comme des gros sacs. Ils ont fini par. Ils ont tellement investi d'énergie là-dedans qu'en fait, ils sont allés espionner la pièce secrète de Williamson. Et là, ils ont vu qu'en fait, Williamson bossait avec Stentor et il bossait avec. Là, pour le coup, il bossait avec Tantale pour se créer un corps parfait. Et donc, là, il y a eu un combat dans Galahad et c'est Tantale qui a sauvé Williamson.
C'était cool.
Moi, je trouve ça tout à fait cohérent avec le personnage du vampire. Oui. D'autant qu'en plus, Tantale, c'est celui qui peut pas boire, mais qui est plongé dans le lac, mais qui peut pas boire, c'est ça, aux enfers.
Je suis plus de Tantale, ouais.
Oui.
Et du coup, bah, c'est le vampire, c'est celui qui peut pas boire aussi, enfin, ou qui a besoin de boire. Mais alors que c'est le seul qui a pas un nom de.
Qui pourra sustenter sa soif.
À peu de choses près, c'est le seul qui a pas un nom d'élément en plus, donc.
C'est un nom d'élément, le Tantale, en fait.
Ah merde.
Désolé.
Bon. Hashtag prof de français.
C'est pour ça que la symbolique du personnage, en plus, lui bien, tu vois, le supplice, le fameux supplice de Tantale.
Et du coup, ouais, lui, sa soif, c'est qu'en fait, il veut voir les gens heureux, en fait. Enfin, oui. Pour moi, il y a vraiment ça. Il veut voir les gens heureux. Et comme il est un quadriade cosmo et qu'il n'arrive pas à voir la différence entre le vivant et le non-vivant, c'est pas un quadriade vie, quoi.
Trop bizarre. Il s'occupe de sa propre famille, de lui-même, à travers
oui,
son incarnation.
Il veut protéger. C'est le plus humain des quadriades. Enfin, c'est un des plus humains, enfin, franchement. Ouais. Et c'est ça qui est chelou, c'est que quand les joueurs le rencontrent, moi, ça a été le seul qu'ils n'ont pas combattu.
Oui, et puis c'est ça, c'est celui qui pose le plus de questions, quoi.
Ouais, il est génial. C'est le combattre Tantale, c'est. Alors, moi, c'est arrivé un peu tard parce qu'ils l'ont fait quand ils ont pu. Il y a toute sa pyramide à monter. Tu peux mettre des petits dilemmes avec de la métallite avant, mais c'est pas très intéressant. Surtout que moi, ils l'ont combattu après avoir éteint la tornade de Mercure, donc ils l'ont trouvé en état de dépression très forte. Parce que s'ils éteignent Mercure, tous les ombres humains meurent.
Ah oui, du coup. C'est intéressant ça. Tiens, j'avais pas pensé à cette conséquence-là.
Et
du coup,
si, non, mais oui, si, c'est super intéressant. C'est super important.
Ah oui, bien
parce
sûr.
Parce que c'est un reflet de ce qui va se passer quand après ils vont être devant les machines. Donc,
oui, bien sûr. C'est juste que moi, j'ai jamais eu
si, moi, c'est la première fois que la question se pose de est-ce qu'on annihile le monde ou pas, quoi.
D'accord, ouais.
Et du coup, quand ils l'ont rencontré, déjà, il y avait sa pyramide où il y a les clones. Ça, c'est très rigolo comme moment. Tu fais combattre. Moi, je l'ai fait combattre un bataillon de l'armée de 1945, des moines Shaolin. Je sais plus ce que je leur ai mis face à la gueule.
Moi, j'imagine tellement faire un combat avec Bruce Lee, Mike Tyson.
Surtout que les gens, au début, ils ont l'habitude de dire c'est juste.
Jean-Claude Van Damme,
oui. Chuck Norris. Chuck Norris.
Ah non, désolé.
Non. Ah non,
Chuck Norris n'a pas de caractéristiques dans le sens.
Oui, il est dans une zone d'ombre. Une zone grise.
Par contre, on l'a vaincu à l'agence.
On lui a arraché une touffe de poils. je crois
que
c'est tout.
Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, le combat à ce moment-là, c'est que les joueurs, ils ont l'habitude, oh, c'est des humains, on leur fait juste des petits rituels dans la gueule, on va les exploser. Et là, en fait, non, parce que quand c'est des humains avec des caractères de malades, genre des moines Shaolin, ils esquivent leurs ombres pouvoirs, ils esquivent des trucs et tout, et ça a fait un combat intéressant. Moi, les joueurs s'attendaient pas du tout à avoir un combat intéressant à ce moment-là, et ils se sont fait péter la gueule par des moines Shaolin. Genre les moines Shaolin, ils ont perturbé leur circuit intérieur et ils les ont un peu empêchés d'utiliser leur pouvoir.
Ouais,
enfin,
non, c'est cool, ça. Bah ouais, c'est cool.
Genre, man, mon mojo.
Alors, ce qui est cool avec Tantale, c'est qu'il est le tentateur. Ça m'amusait avec
mais
les
oui,
deux.
Oui, mais c'est trop bien.
Il est celui qui va te dire, allez, regarde, tu vois Maria, tu vois Gladius, ils sont là. Ils t'attendent derrière cette porte. Et ils se sont eux. Tu vois, je les ai créés sur la base des faits de l'ombre monde.
Et c'est pour ça que je fais revenir les potes de mes bugs. Voilà. Vous les vouliez, ils sont là. Quoi.
Ils sont là. Tantale vous les sert sur un plateau.
Alors la scène aussi juste avant où tu mets plein de philosophes, elle est très très cool. Moi, le repas de Tantale, enfin ils arrivent dans une pièce où ils trouvent Aristote en train de discuter avec Platon, en train de discuter avec Nietzsche. Et c'est génial parce que du coup, en plus, il y a Aristote qui dit oui, regardez, mais non. Moi, j'avais Aristote qui s'engueule avec Démocrite. Et Aristote qui fait oui, mais l'eau, le feu, la terre, l'air. Et là, t'as un bug qui fait regardez. Et il montre de l'eau, du feu, de la terre, de l'air, de la lumière et de l'ombre. Et là, t'as Aristote qui fait waouh, mais c'est vachement intéressant.
Mais bien sûr.
Mais oui, mais c'est génial.
Pourquoi n'y avais-je pas pensé?
Voilà. Et il était tout content. Il fait moi, j'ai aidé Aristote à réfléchir.
T'as les bugs de sens après de la vie au philosophe. Oui. C'est cool. Non, mais il y a un côté cool.
Ça, et la discussion clair. En fait avec Tantale était géniale parce que tu mets vraiment Tantale avec des éclairs dans sa ville de dos devant sa grande baie vitrée qui leur propose de ramener leurs amis, leurs proches. Moi, il leur a carrément proposé ok, j'arrête la respiration. Genre, ils ont fait ok, en échange de quoi? Il leur a dit en échange que, à une fois que tout cela sera fini, il y a un procès pour crime contre l'humanité contre vous.
Waouh! Ça c'est bourrin ça!
Ah c'est bien!
Mais c'est pas grave, t'existeras plus à ce moment-là!
Ça ils le savent pas! Les joueurs le savent pas! Non. En fait, les joueurs s'en voulaient tellement!
Non, mais je comprends très bien, c'est très fort, c'est très bien joué!
Ils ont accepté, mais les joueurs s'en voulaient très très fort quoi! Et il y en a un, de toute façon, le cadre a dit ok, parce que de toute façon, son objectif personnel c'était je veux mourir! Donc il disait de toute façon, j'aurais pas de faim!
Alors, dernier truc par rapport.
Métental, si on parle de lui, je sais pas.
Alors, je sais pas comment vous l'avez joué, mais moi je me souviens quand on avait, en tant que joueuse, quand j'avais joué avec toi, Romaric, j'ai trouvé ça très très bien aussi parce que c'était le moment où tu commences aussi à mettre des dilemmes qui sont pas les dilemmes des personnages, mais les dilemmes des joueurs. Où tu m'avais posé la question, mais si t'avais un temps infini pour lire tous les livres de la Terre, tu vois, enfin. Et c'est bien de commencer à mettre des petits.
Alors, quand tu connais bien tes potes, tu peux te permettre de faire des trucs assez ouf. Hein,
tu, là, peux taper, tu peux taper bien fort.
Et,
quoi.
Et c'est cohérent, vous savez pourquoi ? Parce que Tantale, dans sa petite bibliothèque donnée, il a aussi des membres de la cellule.
Oh.
Parce qu'en fait, le Tantale, et c'est là aussi qui est assez intéressant, il a aussi fait ses propres recherches sur la cellule et compagnie. Il a un clone de Romaric Briand. Il a des trucs
c'est
sympas.
Possible, ça, il n'y a pas des zones d'ombre.
Il a, alors, je ne sais pas.
Il y a une zone
pas.
Grise, normalement.
Je ne sais pas, mais il me semble.
Non, non, il est dans la zone grise. Il dit qu'il ne peut pas ramener.
Ah oui, c'est ça. Oui, ok, d'accord.
Romaric, il est dans la zone grise.
Ok.
Les membres de la cellule aussi.
Il, en tout cas, il recherche autour de ça. Donc, on peut aussi lancer quelques petites pistes de réflexion autour des joueurs. Ça peut être aussi le retour de, des fameux corps aperçu dans le scénario de fin d'Akina, ce fameux scénario qui dérange tant.
Ah, oui.
Ouais.
Donc on peut imaginer beaucoup de choses autour de Tantale, des choses vraiment sinistres. En fait, il laisse, en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce quadrilla, c'est qu'il laisse au meneur de jeu une liberté scénaristique.
Ouais, il faut l'utiliser au bon moment, quoi.
C'est.
De toute façon, tu peux. À part Beryllium et Lithium, les suivants, ce sera suivant comment les PJ décident. Ils pourraient faire Mercure, Sélénium, Tantale, dans l'ordre qu'ils veulent. Il y en a aussi qui peuvent retourner sur Sansmoor, enfin, ils peuvent retourner sur Séléné. Ouais. Et à partir du moment où c'est le bac à sable, donc tu ne sais pas comment ça va se passer.
Exactement.
Ouais. Et
j'ai un bug qui s'est présenté aux élections à Séléné, donc c'est pareil, c'est ça, ça va être le moment où il va y retourner pour, je pense, faire des scénarios politiques à ce moment-là. Quoi.
Ouais.
Mais les séraphines aussi sont très intéressantes. Enfin,
alors, comment tu les as utilisées ?
Parce comment que... je les ai utilisées ? Moi, je les ai mises en fait déjà la première
c'est
fois.
C'est un élément de couleur pour moi.
Moi, la première fois qu'ils ont découvert la respiration, déjà, oui. Et qu'ils ont voulu tout arrêter.
Ah bah oui, là.
Il y a une séraphine qui est intervenue, ils l'ont combattue et ils ont, je crois qu'ils ont réussi à la détruire. Elle a essayé de s'enfuir, mais ils ont réussi à la détruire. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi ? Et putain, je me souviens plus. Ça commence à dater en fait. Putain, ces conneries, c'était il y a.
Donc c'est les tu veux que je te lise la description.
Les six séraphines, je me souviens que c'est des espèces de gargouilles avec des ailes et qui pas de bouche.
Les séraphins en fait ce sont dans comment ça s'appelle déjà ça les anges la connaissance des anges et des démons dans la religion chrétienne.
Alors ça je sais pas mais sais plus. J'allais dire la hiérarchie mais c'est
voilà
pas ça.
La hiérarchie ce sont les anges les plus élevés dans la religion catholique. Et donc, ce sont des anges qui ont six paires d'ailes, dont une paire qui leur voile le regard. Et leur
moi, ils ont eu peur, en fait, à ce moment-là. Ils n'ont pas combattu Tantale aussi, parce qu'avec tout ce que je leur ai mis sur la gueule avant, ils sont arrivés, il leur restait assez peu de points de rayonnement, et ils avaient beaucoup de cases de cocher. Et du coup, quand ils étaient là, « Salaud, on va te péter la gueule !» Et ils voyaient aussi les cinq séraphines autour de lui, ils étaient là. Ça les a un peu encouragés à négocier. Ils n'avaient toujours pas compris à ce moment-là qu'en fait, tant qu'ils essayent, ils gagnent. Quoi, tu vois. Mais...
Enfin, en tout cas, voilà, ce sont des créatures que Tantale a à sa disposition. Et c'est presque un peu, c'est pas des ombres au pouvoir, mais c'est presque ces petits pets. Quoi. Ces pets, dirais, je crois que c'est Adrien qui parle comme ça, des pets.
Oui, c'est dans les MMO, oui, c'est des familiers.
C'est des familiers, voilà.
Ah,
familiers,
d'accord, parce
pardon.
Que j'ai... Oui.
Donc voilà. Malheureusement, les amis, moi, je vais pas pouvoir continuer ce podcast. Il va être l'heure pour moi. Donc,
ah,
ça veut
merde.
Dire qu'on doit s'arrêter là et qu'on continuera. Je vais devoir séparer ce podcast en deux et qu'on continuera le podcast sur les quadrilles de Cosmo. Il reste pas mal de choses à dire quand
bah,
même.
Il reste quand même sélénium, mercure, hydrogène et hélium.
Voilà.
Là, on en a fait trois.
Voilà.
Mais en combien de temps ?
On a fait 1 heure. 5 de podcast à peu près.
Court.
5. Ah ouais. C'est court, je suis désolé, c'est de ma faute là cette fois-ci, je dois aller chercher mes enfants.
Ouais, on pensait que ce serait plus court que ça le podcast.
Mais voilà, mais si, attends, si tu veux rentrer en profondeur dans ce que apporte d'un point de vue scénaristique chaque quadrilla, si tu veux raconter un petit peu leur histoire, ce qu'ils apportent en termes de problématiques.
Bah, comme on dit, il n'y avait pas encore eu de podcast sur Sens Cosmo et là on se rend compte que oui, il y a des choses à dire.
Oui, il y a des choses à dire. Voilà,
après,
c'est ça.
Ouais, enfin, bon, ça serait bien aussi parce que du coup, vous pourrez peut-être le faire avec des gens qui se souviennent plus que moi ou alors j'aurais eu le temps de le relire entre temps. Parce que
on
là,
verra.
On va peut-être
là,
le
là,
temps
on,
de le
là,
faire.
Là, on a fait les trois dont je me souvenais le mieux et sur les problématiques qui me touchaient le plus. Donc, du coup.
Ah, d'accord.
toute façon, on peut le reprendre tout à l'heure, on verra.
Voilà, on va peut-être essayer de le reprendre tout à l'heure. En tout cas, moi, je dois interrompre ce podcast clairement. Merci, Maxime, d'être arrivé avec ce sujet. On voit, même, imaginons que même on n'en fasse pas de suisse parce qu'on puisse pas l'enregistrer. Je ne sais pas à l'heure où j'enregistre ce podcast.
Non, si on mais même pouvoir. Si on est que mais tous les deux à 5 heures du matin, on le fait, quoi.
Déjà, moi, avec ces trois, hein, déjà avec.
Dire encore,
Ok, bon, bah, très bien.
Parce qu'en fait, un élément que je voulais peut-être apporter, Antoine. C'était proposer des conseils ou des exemples de quadrillades Cosmo supplémentaires qu'on aurait créés. Vu qu'ils sont innombrables aussi.
Ça, c'est carrément un sujet de podcast à part entière, je pense.
Ça dépend du nombre d'exemples.
Il faut se mettre devant le tableau des éléments, demander les IF.
Oui.
Et puis.
Du coup, il y a 118 éléments.
Voilà.
Mais faut avec
les physiques.
Bah oui, mais les derniers sont un peu nazes. Hein. Le mendélévium et autres francium, c'est pas très intéressant, quoi.
Ouais, je sais pas, moi, j'y ai réfléchi à ça. En fait, je trouve que le nom d'un personnage n'est pas par essence classe. C'est. Le personnage en lui-même qui va rendre son nom classe. Tu vois, je suis désolé, mais bon, sur le coup.
Maria Gridway, par exemple.
Maria Gridway, Gladius Sword, merci. C'est
Gladius Sword, quand t'as un nom de
famille. Non, Gridway, Gridway, il y a tout dedans, quoi.
Ouais, mais Maria, enfin, Maria, quoi. Enfin,
ouais, mais la voix de l'avarice, quoi. Gridway.
Oui, d'accord, mais enfin, il y a. Fin...
Après, moi, je voulais des noms qui fassent un petit peu venus du futur ou venus d'ailleurs, voilà, etc. Donc,
oui, non, mais
parfois, je me suis dit, tiens,
je suis pas en train de critiquer tes noms non plus. C'est juste que, oui, on s'est attaché à ces deux personnages-là parce qu'ils sont.
Ils sont critiquables. Hein. J'ai vu des critiques de sens sur Internet dire que les noms de sens étaient une raison de contre-immersivité. Ça rend le jeu contre.
Des fois, oui. Michel Cetra, c'est contre-immersif.
Les sliptiques. Des hélicoptères, on en a beaucoup. Ah, sliptique, des slips. Non, mais je te jure.
Alors, ça qu'Adrien ne faisait pas jouer avec ces noms-là.
Il y a des noms comme ça. Qu'est-ce qu'on m'avait dit aussi que
Sub-Zeri.
Yuri, je sais plus, il y en a une qui s'appelle Yuri. Apparemment, c'est une catégorie de hentai.
Les hentai entre femmes.
Voilà, des trucs comme ça. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça. Tu sais pas forcément non plus quand tu nommes tes personnages toutes les conséquences que ça va avoir sur la psyché. Qu'est-ce que c'est que ce sourire en coin, Antoine ?
Entre fans de hentai,
tu aimes le Niyuri.
Toi, tu disais, on ne sait pas forcément. Je me demandais si y a des gens qui savaient. Voilà, je ne vais pas rien dire de plus.
Yuli.
En tout cas, merci Maxime d'avoir apporté ce thème de podcast qu'on voit fort riche.
Moi, j'ai vraiment hâte surtout de parler d'hélium et hydrogène.
On en parlera.
Et de mercure. Donc, je veux faire la deuxième partie parce que là.
Épisode 2 à venir.
Là, on a fait les chiens, tu vois. Et en fait, ils étaient bien.
Entendu. Très bien. Alors à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien d'ici là. À bientôt.
Bisous.
Bisous.